Donc bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue à cette soirée Zoom autour du livre de Patrick Goujon qui s'intitule Méditez et vous vivrez. Je vous le montre pour que vous voyez aussi le format du livre parce que vous l'avez peut-être pas forcément vu déjà. Donc un livre publié récemment chez Bayard. Mais avant même de parler du livre, je voudrais dire combien nous sommes heureux de retrouver Patrick Goujon, notamment ceux du Centre Sèvres. Patrick qui passe une année sabbatique à Oxford, après des années bien chargées au service du Centre Sèvres. Alors, grâce à la visioconférence, nous pouvons nous retrouver, même si ça n'a pas la chaleur du présentiel, mais ça fait grand plaisir. Voilà, et je voulais te dire ça d'emblée, Patrick, en commençant. Voilà. Alors, si nous organisons cette visioconférence, c'est aussi parce que le livre de Patrick arrive, on pourrait dire, à point nommé. Beaucoup aujourd'hui sont attirés par les techniques de méditation. On a même vu des livres de méditation pour les enfants avoir un beau succès. Et alors, à cette méditation, sans doute, sont associées la quête d'un repos, d'un silence intérieur, le besoin d'unification et de présence à soi. Et le plus souvent, quand on pense méditation, on pense avant tout à des choses comme le yoga ou des exercices de respiration, de relaxation, qui nous viennent pour la plupart des traditions orientales. Et la tradition chrétienne, que propose-t-elle en termes de méditation? Voilà ce que ce petit livre au style alerte nous fait découvrir. Et très vite, on s'aperçoit que beaucoup plus qu'une technique, il est question d'écoute et de parole. La méditation dans sa déclinaison chrétienne est ouverture à quelqu'un. Alors, va-t-on y retrouver ce qui fait l'attrait des techniques de méditation, avec ce besoin de repos, d'unification dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, je laisse le suspense ouvert. Pour réagir à cet ouvrage, nous avons le plaisir de recevoir ce soir deux invités qui vont réagir à cet ouvrage et le commenter. Brigitte Pic, qui est professeure émérite du Centre Sèvres. Brigitte a plusieurs cordes à son arc. Elle est spécialiste de littérature russe et a notamment travaillé et enseigné sur Tolstoï. Mais elle est aussi une théologienne et une bibliste qui a fait sa thèse sur Paul Beauchamp. Et Brigitte est sensible à ce qui travaille en profondeur nos contemporains. Et c'est là qu'on retrouve la question de la méditation et de l'expérience spirituelle. Une deuxième invitée réagira également au livre de Patrick, c'est Nathalie Sartoux-Lajut, qui est rédactrice en chef adjointe de la revue Études. Elle a publié notamment L'éthique de la dette, Sauver nos vies et le geste de transmettre. Trois perspectives ouvertes vers ce qui est essentiel à l'expérience humaine. Merci beaucoup, Nathalie, de nous partager aussi la manière dont vous avez reçu ce livre de Patrick. Nous entendrons donc d'abord Brigitte, puis Nathalie, et ensuite Patrick prendra à son tour la parole. Et bien entendu, les auditeurs, vous pourrez poser des questions. Et pour cela, merci d'utiliser plutôt le chat de Zoom. C'est-à-dire que quand vous promenez la souris en bas de votre écran, vous trouvez une icône qui s'appelle Discussion, normalement. Et en cliquant sur cette icône, vous trouverez de quoi écrire un message qui sera envoyé à tout le monde. Voilà. Et merci aussi de réserver l'utilisation de ce chat aux questions à poser aux intervenants. Alors, ces questions ou réactions, elles seront synthétisées et triées par Cyril Causse, qui est étudiant au Centre Sèvres et qui a bien voulu se charger de cela ce soir. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir accepté ce petit travail. Et puis, eh bien, sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Brigitte.
Merci Étienne. Et merci surtout de m'avoir donné l'occasion de méditer sur ce beau livre de Patrick et pour pouvoir en parler ce soir. Alors, mon propos ne sera pas d'analyser le livre, mais d'essayer très simplement de dire comment je l'ai reçu. Dès la première lecture, dans la situation incertaine dans laquelle nous sommes du fait des crises de toutes sortes, ce petit livre sur la méditation m'est apparu comme une respiration. Cela tient sûrement au très large panorama qu'il offre sur la tradition chrétienne et sur ce trésor à partager qu'est la méditation. Mais je vais garder cette notion vitale de respiration pour ma présentation de ce soir. Cela me permettra dans un premier temps de réfléchir sur la forme du livre, puis dans un deuxième temps, de mettre en évidence la pédagogie qui est mise en œuvre, et en particulier sur la parole de Dieu et donc sur la foi. Alors d'abord, la construction du livre. Ce livre est composé de 15 chapitres très courts, dont la lecture est annoncée dès la page 17 comme 15 étapes d'un chemin qui est clairement balisé. En suivant leur titre, il m'a semblé que ces 15 petits chapitres pouvaient se regrouper en 3 ensembles d'égale grandeur. Un premier ensemble, du chapitre 1 au chapitre 5, concerne les conditions que l'on pourrait dire corporelles de la méditation. Il s'agit de faire silence, de prendre le temps de méditer, de s'établir en un lieu et de décider de se mettre provisoirement à l'écart. Un deuxième ensemble, du chapitre 6 au chapitre 10, évoque l'écoute de la parole de Dieu et la proximité insaisissable qu'elle établit avec Dieu. Et un troisième ensemble amène le lecteur à l'ouverture d'une vie soutenue par la méditation, et ça au milieu même des épreuves et des combats. Alors, en constatant qu'il y avait ces trois ensembles possibles, je me suis demandé si ce n'était pas la construction elle-même du livre qui faisait penser au rythme de la respiration. Alors je vais donc risquer cette métaphore respiratoire. Bon, en rigueur de terme, on décrit toujours la respiration en deux temps, avec la sortie d'air lors de l'expiration et l'entrée d'air dans les poumons lors de l'inspiration. Un troisième temps pourrait correspondre à ce qui s'appelle la respiration interne, c'est-à-dire c'est le processus qui permet, en libérant l'oxygène dans les cellules, de produire de l'énergie pour le corps. Alors, quelle serait donc la respiration de ce livre? Au temps de l'expiration serait liée la nécessité d'établir l'équivalent d'un certain vide, d'une certaine discipline pour entrer dans la méditation, et nous retrouvons là le chapitre 1 à 5. Au temps de l'inspiration correspond l'accueil de la parole de Dieu, comme est accueilli l'air dans les poumons libres. Et là, nous retrouverions le chapitre 6 à 10. Et les chapitres 11 à 15 correspondraient à ce troisième temps, qui est ce temps qui permet de prendre conscience d'une vie fortifiée et d'une vie renouée par la prière et par la méditation à Dieu, au monde et à soi-même. Ou à soi-même, au monde et à Dieu. Voilà pour la construction du livre sur cette métaphore respiratoire. Et bien maintenant, je voudrais insister sur un aspect du livre qui peut lui aussi contribuer à cette expression de respiration. Il s'agit de la pédagogie mise en œuvre à propos de la parole de Dieu et de la foi. D'entrée de jeu, avec le titre « Méditez et vous vivrez », le livre est placé dans la lumière des Écritures, en s'inscrivant dans la ligne des préceptes vitaux de la Bible. Et la citation d'Isaïe dès la première page de l'avant-propos confirme bien « Écoutez, et vous vivrez. Citation d'Isaïe, chapitre 55, verset 3. Sans le dire, ce titre sollicite la mémoire biblique, puisque c'est déjà le sens de la recommandation qu'on peut lire dans le Lévitique, chapitre 18, verset 5. Vous garderez mes lois et mes coutumes. Qui les accomplira y trouvera la vie. Je suis Yahvé. Et comment ne pas penser aussi à la réponse de Jésus au légiste qui l'interrogeait sur la vie éternelle? Fais cela et tu vivras. Cela, évidemment, c'était aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même, en reprenant Deutéronome et Lévitique. Ces affirmations renvoient à la grande question de la Bible. Que faut-il entendre par trouver la vie? Vous vivrez, tu vivras. De quelle vie s'agit-il? Et comment la trouver? C'est l'objectif, me semble-t-il, que se donne ce livre, annoncé page 10, montrer comment, avec les ressources de la spiritualité chrétienne, la méditation permet à chacun, un peu mieux, de vivre en étant porté par la parole de Dieu qui, je cite Patrick, se désigne comme source de la vie. La pédagogie de la parole de Dieu qui est présente dans ce livre pourrait aussi se définir selon le rythme de la respiration tel que je viens de le décrire. Un premier temps consiste à rejeter des fausses notions. Avant, dans un deuxième temps, d'accueillir les nouvelles compréhensions et afin, troisième temps, d'en vivre. Alors ces fausses notions sur la parole de Dieu qui risquent d'être des obstacles sont nommées avec précision. Par exemple, page 64, on peut lire que contrairement au sentiment que l'on pourrait avoir, la parole de Dieu n'est pas un réservoir de vérité à croire et de loi à suivre. Ou bien encore, page 88, la parole de Dieu n'est pas une leçon de morale ni une explication du sens de la vie. En effet, la parole de Dieu est d'un tout autre ordre. Et comme le dit si bien le titre du chapitre 6, la parole nous pousse en avant de nous-mêmes. Et c'est bien ce que veut dire l'Évangile quand il dit de Jésus qu'il est la parole vivante de Dieu. L'Évangile nous parle de sa parole qui est, et je cite le livre, la page 65, la parole qui agit et fait agir. Elle remet à celles et ceux qui l'écoutent leur capacité d'être des humains à part entière. Mais c'est une puissance paradoxale car elle passe par l'échec. Et en effet, on résiste à la parole de Jésus alors qu'elle est bienfaisante, qu'elle relève et qu'elle cherche à guérir. Donc, au-delà des menaces de toutes sortes qui pèsent sur la vie, la parole de Dieu, et c'est là, je crois, le point principal, rejoint le désir de vie en chacun. Patrick note cette parole de Dieu est puissance. Elle donne la force d'accéder au désir de la vie qui nous anime et de le mettre en œuvre. Donc cette parole est avant tout soutien du désir de la vie qui est en nous et elle nous donne le courage de l'assumer jusqu'au bout. Toutefois, si cette parole est puissance, elle se donne à découvrir comme une présence discrète. Et c'est à mon sens toute la force du récit biblique que de montrer comment Dieu nous parle dans notre vie sans contraindre. Cette présence se révèle agissante dans les vies des personnages de l'Ancien Testament, au cœur de leurs faiblesses et de leurs infidélités. Et c'est pour cela que nous lisons leur histoire avec plaisir et avec intérêt, parce qu'ils ne nous parlent ni d'un monde idéal, ni de personnages exemplaires. Il nous parle de nos vies réelles et bien concrètes. Et C'est bien ainsi que nous retrouvons Abraham, Jacob, Isaac ou David dans le livre de Patrick dont nous parlons ce soir. Alors, il faut ajouter que ces figures de l'Ancien Testament, ils sont accompagnés dans ce livre de nombreuses figures chrétiennes dont il faudrait avoir le temps de parler, comme celle de saint Augustin, saint François d'Assise, Thomas More et bien d'autres, Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola. Et elle constitue ces nuées de témoins dont parle la lettre aux Hébreux et que cite Patrick. Un autre point apparaît avec force dans ce livre, et c'est le suivant. Dans la mesure où la Bible nous parle elle-même de la vie, de la mort, de ce qui fait vivre ou mourir, elle donne des mots pour interpréter nos expériences, et en particulier les expériences qui nous mènent de la mort vers la vie. Voilà, on retrouve ces idées dans les pages 111 à 113. Donc, hors de la Bible, il apparaît que la puissance de la parole de Dieu peut aussi et également soutenir d'autres écrits, d'autres récits et d'autres paroles. Et en effet, tout au long du livre, le lecteur découvre comment des paroles et des écrits peuvent venir se nourrir à cette source de la parole de Dieu et devenir source à leur tour. Avec des larges extraits, plusieurs textes littéraires, mystiques ou théologiques trouvent en effet leur place dans ce livre. Ils donnent ainsi toute sa valeur à ce qui est nommé un bain de paroles qui nous est offert par la Bible et la foi professée en Église. C'est page 74. Voilà, j'ai vraiment relevé cette expression du bain de paroles dans lequel nous sommes plongés et qui nous donne d'exprimer à notre tour nos expériences. Alors, je pense particulièrement à deux très beaux passages du livre. C'est le récit relaté par Patrick, le récit fait par Éloi Leclerc du Cantique de saint François, qu'il avait entonné avec trois compagnons dans le train qui les menait en déportation. Un autre passage, c'est aussi très beau passage, c'est le dialogue entre Patrick et une femme que le désespoir avait mise en route vers Compostelle. Alors, dans l'écoute ou la prière, la parole de Dieu, enfin, nous transforme en nous faisant accéder à cette vie nouvelle dont parle la Bible. Nous avons déjà souligné que la parole de Dieu donne la force d'accéder au désir de la vie qui nous anime et la force de le mettre en œuvre. Cette force est soutenue à son tour par la méditation, dont j'ai noté qu'elle est animée par trois verbes: chercher, garder, marcher. Et là, je cite Patrick, page 86. Je cherche ce qui me fait vivre. Une fois trouvé, je le garde comme on garde un trésor. Je peux alors marcher, car je reçois l'élan par lequel je sais que ma vie ne s'ensevelit pas sous les cendres. Nous pouvons alors reconnaître une nouvelle possibilité de vie, nouvelle possibilité de vivre avec la joie qui l'accompagne, comme il est décrit dans le très beau chapitre 10, entrée de la louange, dans laquelle il y a une très belle phrase sur le psaume. Et on peut lire ce commentaire: quand nous sentons ce surgissement dans le quotidien, nous l'identifions dans la foi à la résurrection du Christ qui a bel et bien eu lieu. Cela est promis à tous, non seulement à notre mort, mais dès aujourd'hui. Le présent peut être rempli du présent de Dieu. Or, ce passage à la vie nouvelle surprend toujours, même celles et ceux qui l'espèrent. Alors, avec cette compréhension de la parole de Dieu comme source de vie, s'ouvre aussi ce qu'on pourrait apprendre, une pédagogie de la foi. Elle consiste en un cheminement qui parcourt tout le livre que résume peut-être parfaitement une formule d'une grande simplicité qu'on peut trouver dès la page 11. Croire en Dieu, pour un chrétien, c'est simplement avoir entendu sa parole et y répondre par sa vie. Croire en Dieu pour un chrétien, c'est simplement avoir entendu sa parole et y répondre par sa vie. Donc Dieu se fait d'abord connaître comme celui qui garantit la vérité de notre désir de vie. Voilà, et là j'ai noté, relevé quelques expressions. Par exemple, page 12, la foi en Dieu, c'est avoir éprouvé, senti, compris, expérimenté jusque dans ses tripes, entre parenthèses, les entrailles, dit-on religieusement, que la vie l'emporte sur la mort et qu'elle s'en distingue absolument. Ou encore, page 69, croire en la parole de Dieu, c'est être assuré de l'œuvre de Dieu pour nous, de sa puissance qui est délibérément œuvre de vie. Voilà, ou encore, page 100, croire en Dieu, c'est croire qu'il nous tient là dans cet amour que nous découvrons au plus intérieur sans pouvoir le saisir. Voilà, d'autres, j'aurais pu citer d'autres formules, mais c'est alors que la foi peut se formuler comme confiance et peut se proclamer. Voilà, c'est la foi, c'est la confiance que l'on croit pouvoir accorder parce qu'à un moment de sa vie, on reconnaît la force bienfaisante qui inspire une parole, une personne. Sur ce socle de confiance, on peut comprendre ce que disent les Écritures et qui s'énonce dans la foi proclamée. Je crois en Dieu. Il a ressuscité son Fils pour nous. Voilà, alors, bon, il faut conclure, et au moment de conclure, je vois qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et beaucoup de points à relever. Entre autres, la richesse des références aux Écritures, le choix des auteurs qui donne le goût de les relire ou de les découvrir, l'évocation des différentes traditions chrétiennes sur la méditation, et en particulier la Lectio Divina ou la tradition ignatienne. Et il faudrait conclure sans oublier de mentionner aussi la puissance d'évocation du style dans lequel est écrit ce livre et dont il est difficile de rendre compte comme ça dans un court passage. Voilà, ce titre, ce livre, en sous-titre, une pratique, j'ai déjà parlé.
Excusez-moi Brigitte, je me permets de vous interrompre. Je pense que vous tenez vos notes peut-être près du micro. Et ça brouille un peu l'écoute. Je ne sais pas si c'est possible ou le livre, de le tenir un peu à distance.
Comme ça, c'est mieux.
Là, c'est parfait. Je crois D'accord. que c'est quand vous...
Oui, en fait, c'était un peu empiété.
Je vous en prie.
Donc, ce livre porte en sous-titre une pratique de la spiritualité chrétienne. Et à la lecture de ce livre, nous avons pu vérifier, comme ce mot de pratique l'indique, qu'il ne s'agit ni de théorie, ni de règles ou de principes, mais de la manière de donner le goût de méditer en inscrivant la vie spirituelle dans le contexte concret de la vie. Alors il me semble que cette approche peut être une façon de jeter un pont entre la spiritualité chrétienne et d'autres traditions spirituelles, en leur donnant la possibilité de se rejoindre sur une pratique qui est aussi une manière de vivre. Et cette approche, en effet, permet d'inscrire la méditation dans le quotidien de nos vies. Et c'est sur ce souhait que s'achève le livre pour découvrir le chemin par lequel Dieu vient à nous. Et je me dis que nous pourrions alors peut-être dire avec Jacob à Bethel, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. Voilà, merci.
Merci beaucoup Brigitte. Merci beaucoup de nous avoir fait entrer vraiment dans le livre de Patrick, avec notamment cette image de la résurrection, de la respiration. une respiration à trois temps, ce qui n'est pas banal. Et puis, merci beaucoup d'avoir montré comment, en fait, la méditation nous amène vraiment sur les lieux, les grands combats, on peut dire, de la vie de toute personne, quoi. Voilà. Donc, nous sommes au cœur du sujet. Hein. Et bien, je vais passer maintenant la parole à Nathalie Sartoulaju, qui est donc rédactrice en chef adjointe de la revue Études et qui nous fait le plaisir de venir réagir aussi à la lecture du livre de Patrick.
Oui, bonsoir. Donc, merci de votre invitation. Donc, comme Brigitte, en fait, je ne ferai pas une analyse du livre hein, dans le temps imparti, mais ça sera plus mes réactions, enfin, comment j'ai reçu le livre, aussi bien à partir lors de ma formation de philosophe, parce que moi, j'ai pas de formation théologique, hein, et puis aussi à partir du long compagnonnage et qui commence à être le nôtre avec Patrick, en fait. Alors j'ai été sensible à différents points. Le premier point, c'est la manière dont Patrick associe la méditation et le désir de vivre. Comment méditer en fait répond à une soif de vivre. Et je pense qu'en effet, méditer est devenu vital pour un certain nombre de nos contemporains. D'ailleurs, quand bien même ils sont assez étrangers ou en tout cas éloignés de toute quête spirituelle et encore davantage même de la prière. La méditation s'entend alors comme un besoin de se recueillir dans un lieu de silence et de solitude, loin du bruit et de l'agitation du monde. Face au succès de la méditation d'inspiration orientale, du bouddhisme, avec Patrick, nous nous sommes souvent demandé mais quelles étaient les ressources dont nous pouvions disposer dans nos traditions occidentales, aussi bien philosophiques que chrétiennes. Parce que la méditation s'entend aussi en philosophie, hein, au sens où Descartes médite, où Pascal a écrit ses pensées. C'est des auteurs moi, dont je me sens proche. Peut-être parce que justement la philosophie s'y entend pas simplement comme une visée de la connaissance de la vérité, mais aussi vraiment comme une réflexion qui engage toute l'existence, hein, corps et âme, et qui vise aussi une transformation de cette existence pour qu'elle soit plus libre et plus vivante aussi. Et la méditation chrétienne, quant à elle, alors effectivement, elle est inséparable, et ça, Patrick dit bien tout de suite d'emblée, et puis ça parcourt tout son livre, elle est inséparable de la saveur des Écritures, comme le lieu de rencontre d'une parole, et d'une parole, nous dit Patrick, d'une parole de Dieu qui n'interdit pas, qui n'oblige pas, qui ne retranche pas du monde, mais qui porte vers la vie en toutes circonstances. Et ça, j'ai été vraiment très sensible à cette dimension-là que Patrick accorde à la méditation. C'est-à-dire la méditation, effectivement, c'est ce qui, au cours de l'existence ordinaire et dans la traversée des épreuves, la méditation des Écritures est ce qui va nous porter vers la vie, ce qui va nous amener à refaire tout au long de notre vie ce choix-là de la vie. Quand on pourrait être tenté par la mort ou par le choix par des options finalement qui nous porteraient plutôt vers cette tentation de la mort ou de la disparition. Le livre de Patrick commence par une parole du prophète Isaïe : « Venez, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. » Et je suis très sensible à ça que Patrick met bien en valeur, c'est-à-dire que la méditation, l'aventure spirituelle, elle est soif. Elle est un désir qui va mouvoir tout le corps. Et je crois qu'effectivement, la soif est dans les Écritures le nom de ce que Patrick appelle, je le cite, un désir insatiable de vivre. On se souvient des paroles de Jésus à la Samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et le cri de Jésus sur la croix qui réclame à boire, et probablement aussi ce point de rencontre entre le Dieu qui désaltère, la source de vie, et puis la soif humaine d'absolu. Donc je médite parce que j'ai soif, et que ma soif, elle est cette manifestation organique, et là aussi j'ai beaucoup apprécié la place que Patrick donne au corps dans la méditation, elle est la méditation organique d'un désir brûlant de vivre. Alors je trouve très important aujourd'hui de redire cela. Je trouve que c'est la proposition de Patrick de dire que la méditation répond à une soif de vivre. Je trouve que c'est absolument salutaire parce que la méditation, je crois que cette source un peu vitale, elle est obstruée aujourd'hui, et que c'est pour ça que nos contemporains se tournent vers d'autres traditions, en fait, notamment vers des traditions orientales. Souvent, ils ont vécu leur éducation chrétienne, en tout cas, c'est souvent dans les conversations qu'on peut avoir quand il y a eu rejet, en fait, de cette tradition chrétienne, c'est parce qu'ils l'ont vécu comme quelque chose de mortifiant et non pas du tout de vital. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve important que Patrick nous ramène à cette source vitale. Le deuxième point auquel j'ai été sensible, c'est la compréhension que Patrick nous donne de la vie intérieure. La méditation s'accomplit dans une descente au fond de soi-même, où se développe ce que l'on appelle la vie intérieure. Alors, comment décrire cet espace au-dedans de nous où se retrouve ce qui rentre en eux-mêmes en s'éloignant du monde? Souvent, la vie intérieure, elle est matérialisée par un lieu, délimité par des murs, que ce soit une maison, ou bien une cellule, ou une chambre. Et la vie, ça serait de rester là. Rien ne devrait nous divertir. La question qu'on peut se poser, alors, c'est méditer. Est-ce que ce serait privilégier ce souci de la vie intérieure au détriment du souci du monde? Le souci de préserver sa quiétude intérieure, conjugué au sentiment d'une certaine impuissance à changer le cours du monde, notamment dans ces temps où on parle beaucoup de catastrophes, où on a tendance à voir la catastrophe partout, pourrait encourager parfois cette tentation finalement de se retirer du monde, de se mettre en retrait et d'abandonner le monde à sa violence et à son chaos. Pourtant, Patrick nous avertit, la chambre intérieure, je le cite, la chambre intérieure n'est en rien un réduit où je m'isole. Et la vie intérieure, telle que Patrick, me semble-t-il, la comprend, n'est pas du tout une vie retirée du monde, repliée sur elle-même. Elle se déploie vers l'extérieur, elle agit dans l'histoire, elle la transforme depuis ce lieu intime qui est son secret. Et je suis vraiment sensible à ce souci que Patrick a de ne pas figer la vie intérieure et de ne pas l'assigner à demeure. Dans la méditation chrétienne, l'intériorité ne désigne pas seulement le dedans de soi-même, elle renvoie au Dieu qui saisit de l'intérieur et qui me transforme. L'intériorité, elle est une élévation finalement de sa vie en Dieu. Et là, j'ai trouvé vraiment, c'est je crois un de mes passages préférés, un magnifique commentaire que Patrick fait de saint Augustin. Vous savez, de cette qui définit donc la vie intérieure, ce Dieu qui est intérieur, intimo meo, et qui est aussi supérieur, sumo meo. Et voici le commentaire de Patrick que je trouve vraiment saisissant. À la fois, ça donne bien aussi une idée du style. De Patrick qui est à la fois c'est très dense et à la fois limpide. Là, je trouve que c'est beau comme un poème, donc je vous le lis. En latin, l'adjectif intimus est un superlatif, le plus intérieur. La connaissance de soi est un bien à laquelle invite la sagesse, mais elle conduit à se découvrir au plus intérieur connu de Dieu. Or, Dieu ne connaît jamais sans aimer. Cet amour me change, il me donne une densité, une consistance qui ne se laisse pas réduire à l'énumération de mes traits, de caractère ou des événements de mon histoire, à ce moi qui me hante et que j'habite. L'intime, ce serait comme la quille d'un bateau. Elle donne l'équilibre dans la flottaison et empêche de dériver dans le mouvement. Pas étonnant que Dieu ait fait de l'intime sa demeure. Tu étais le plus intérieur que l'intérieur de moi-même, s'exclamait surpris saint Augustin. Voilà, je trouve que c'est vraiment un magnifique Augustin aussi appelé la vie intérieure. Alors, le troisième point auquel j'ai été sensible, c'est finalement cette quelle est la visée de la méditation, c'est la reconnaissance de sa juste place. Finalement, ce Dieu découvert au plus intime de soi est un appel à la vraie vie qui n'a rien à voir avec l'orgueil de celui qui vit dans la maîtrise de lui-même et dans la suffisance à soi. C'est, nous dit Patrick, un chemin d'humilité, mais un chemin d'humilité qui, je le cite, n'a rien à voir avec la dépréciation de soi, mais qui est reconnaissance de sa juste place, d'un être vivant unique avec ses potentialités et ses limites. Alors, je me sens vraiment proche de cette importance que Patrick accorde à la reconnaissance de sa juste place. Ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Parce que bon, je pense qu'effectivement la méditation des Écritures peut contribuer à cette reconnaissance-là de sa juste place. Et puis bon, je trouve que c'est parfois le travail de toute une vie. Donc cela n'est pas évident, car chacun peut être tenté aussi soit de prendre trop de place par présomption au détriment des autres, ou bien de ne pas tenir sa place en s'effaçant par manque de confiance et de courage, ou parce qu'il a été empêché de prendre sa place. Alors que chacun est un maillon unique dans la chaîne des générations, un parmi d'autres, pour reprendre la belle expression du jésuite et psychanalyste Denis Vasse, au sens où il s'agit de devenir soi, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, mais en prenant et en tenant sa place, c'est-à-dire toute sa place et rien que sa place. Voilà, et ça, je trouve que c'est bon. J'ai été sensible à ce sens-là que Patrick accorde à la méditation. Alors bon, comment découvrir le sens de sa juste place? Pas tant dans le recueillement sur soi que dans ce que Patrick appelle la communion vécue. Au plus profond de soi se trouve finalement le cœur de chair, hein, d'Ézéchiel, ouvert à la rencontre et opposé au cœur de pierre. Le commandement d'amour nous fait percevoir notre juste place. Nous ne pouvons pas tenir par nous-mêmes. C'est l'amour qui nous tient. Et croire en Dieu, là je cite Patrick, croire en Dieu, c'est croire qu'il nous tient là, dans cet amour que nous découvrons au plus intérieur, sans pouvoir le saisir. Ça fait vraiment un bel appui à un autre beau commentaire que Patrick fait aussi dans son livre du poème de Jean de la Croix, « Sans appui et pourtant appuyé », qui prend ici toute sa signification. Enfin, le dernier point, et ça c'est plutôt vraiment dans la poursuite de la conversation que l'on a depuis longtemps avec Patrick sur la méditation, c'est les rapports entre méditation philosophique et puis exercice spirituel. Donc, j'avais quelques interrogations, j'ai envie de poursuivre ce soir aussi cette conversation sur cet aspect-là. Les œuvres philosophiques de l'Antiquité, avec je pense aux Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, les Lettres à Lucilius de Sénèque, et jusqu'à l'ère moderne, avec les Essais de Montaigne, les Pensées de Pascal, les Méditations métaphysiques de Descartes, les discours philosophiques se donnent aussi comme des méditations, dans la mesure où la philosophie est une manière de s'exercer à vivre pleinement avant de devenir un corps de doctrine et d'édifice conceptuel. La méditation philosophique engage alors tout l'être et transforme la manière de vivre de celui qui l'exerce en entraînant une véritable conversion spirituelle, le passage d'un état inauthentique à un état supérieur de liberté et de paix intérieure. Donc, quel rapport existe-t-il entre les exercices spirituels de l'Antiquité et ceux des méditations ignatiennes ? J'aimerais qu'à la suite de Pierre Hadot, voilà, Patrick, il me semble que, qu'il se situe aussi dans cette suite-là, hein, dans cette conversation-là. Et donc, j'aimerais l'entendre sur, sur ce point-là. Certainement, alors c'est vrai que Pierre Hadot donne des pistes, hein, certainement une forme de détachement, une mise à distance du monde, un dépassement de ce que Pierre Hadot appelle le moi partiel et partial, pour s'élever à une vision qu'il appelle une vision d'en haut, c'est-à-dire en langage philosophique, c'est pas une élévation de sa vie en Dieu, mais ça serait une élévation de sa vie à une perspective qui serait plus universelle. En tout cas, avec Dieu ou sans Dieu, la méditation est sollicitée pour ouvrir au-dedans de l'homme des ressources qui lui permettent de faire l'expérience de son unicité, de sa liberté et de ce qui le dépasse pour être plus vivant. Voilà. Donc c'est, j'aimerais bien entendre Patrick aussi sur, sur cette question-là, des rapports entre méditation philosophique et puis exercice, exercice spirituel. Merci.
Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup pour tes réactions à la lecture du livre de Patrick. Il me semble que si je voyais un fil rouge dans ta réaction, il me semble que tu insistes beaucoup finalement sur le caractère inséparable de la méditation d'une manière d'être au monde. Hein, et comme quoi c'est vraiment, disons, dans un même mouvement que les deux choses adviennent, quoi. Eh bien, nous allons maintenant entendre Patrick lui-même, voilà, qui aura sûrement envie de réagir à tout ce qui a été dit. Voilà. Donc, Patrick, c'est à toi.
Merci, Étienne. D'abord, un très grand merci à vous toutes et vous tous qui êtes là. Je vois que nous sommes nombreux ce soir. Et un merci tout particulier au Centre Sèvres, à Étienne, qui a bien voulu qu'on organise cette soirée à distance, puisque effectivement je me trouve encore à Oxford pour quelques semaines. Et un merci tout spécial à Brigitte Pic et à Nathalie Sartou-Laju pour leur lecture qui donne un écho, mais là aussi personnel, marqué par votre propre sensibilité. Et c'est ça qui est toujours heureux de ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Je dirais, ce livre, c'est quand même un peu une cuillère pour aller puiser dans la mer. Alors, une cuillère à soupe ou une cuillère à dessert, en tout cas, de toute façon, il y a quelque chose de disproportionné par rapport à la richesse de la tradition spirituelle, des traditions spirituelles chrétiennes. Et je m'en suis vraiment tenu aux traditions spirituelles chrétiennes. Il y aurait peut-être d'autres portes à ouvrir. En tout cas, elles ne sont pas absentes de ma propre réflexion et de mon propre intérêt, mais ce livre se concentre sur les traditions chrétiennes. Ce n'est pas un livre de tradition ignatienne au sens propre, je le dis pour ceux qui n'imagineraient pas qu'un jésuite puisse parler d'autre chose que des exercices spirituels. J'ai pas cherché à faire un livre de méthode, et vous l'avez vraiment bien dit, mais un livre effectivement qui essaie de dire ce pourquoi la méditation est riche, c'est-à-dire que la méditation soutient l'existence. Ça, c'est, je crois. Et du coup, ce livre, il est là, j'espère, pardon, pour donner envie de découvrir, que chacun, au fond, puisse aller puiser par lui-même dans cette riche tradition qui fournit un appui pour vivre. Et en même temps, comme toujours dans le christianisme, c'est un appui, ou dès qu'on parle de Dieu, ce serait peut-être plus juste de dire comme ça, c'est un appui, mais un appui paradoxal, puisqu'on s'appuie sur celui qu'on ne voit pas, sur celui qu'on n'entend pas, sur celui qu'on ne sent pas, mais on s'appuie parce que d'autres nous ont dit de lui. et que ça nous donne de reconnaître que Dieu nous porte. Ça, c'est peut-être ça la conviction fondamentale de ce livre. Et au fond, ce que je voudrais redire ce soir, c'est de m'arrêter à trois verbes qui font apercevoir des facettes de la méditation. Moi, je dirais que la méditation, elle enracine. La méditation, elle nous console. Et la méditation nous relie. Ce verbe n'est pas très heureux. Une autre manière de dire, et j'y reviendrai, c'est que la méditation nous fait entrer en conversation, fondamentalement. Alors, la méditation, elle enracine. Et je voudrais pour ça revenir à la couverture choisie par mon éditrice, Anne-Sophie Joanneau, pour ce livre, qui est un tableau d'Odilon Redon, un personnage sous un arbre en fleurs. Alors, je vais essayer, sans tout casser, de vous le partager. Je pense que vous voyez ce très beau tableau d'Odilon Redon que je ne connaissais pas. Et j'ai été vraiment frappé par la position verticale du personnage qui répond à cet arbre qui s'élance et qui occupe vraiment tout l'espace du tableau. Arbre dont on devine le tronc, encore nu, et qui fait pressentir la profondeur dans laquelle il plonge ses racines, et qui permet l'apparition des premières fleurs. On a ces fleurs printanières. Et on perçoit tout à la fois l'élan et l'enracinement sans aucune raideur. Et la fraîcheur des couleurs printanières, ainsi que l'estompage des contours, le tremblé du trait, me suggère le surgissement encore frêle de la vie, mais pourtant bien affirmé. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le jeu qui s'installe entre cette figure humaine voilée qui sort de la nuit dans des couleurs très très terrestres, presque de terre, de boue, qui contraste avec le bleu du ciel qui lui gagne l'espace du tableau. Et ce personnage semble comme s'aligner dans sa verticalité avec l'arbre, comme s'il répondait à l'arbre par sa stature, en se redressant. Et du coup, la figure d'un homme ou d'une femme debout, je n'en sais rien, dans le mouvement, on voit il y a une jambe qui s'avance, auprès d'un arbre, eh bien, il me semble que cela figure vraiment la méditation. Alors, quand j'ai vu ce tableau, j'ai immédiatement pensé au premier psaume. Heureux qui murmure la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Alors, c'est beau en plus ce verbe murmurer de la traduction liturgique. En hébreu, c'est un verbe qui signifie tout aussi bien marmonner, grommeler, voire grogner, mais aussi méditer. Alors, c'est intéressant, le philosophe qui médite, c'est un philosophe grognon. Mais voilà, je crois qu'il y a quelque chose dans cet arbre, c'est-à-dire à la fois dans l'enracinement et l'élévation, le mouvement même de la méditation, mais qui est dit par l'homme ou la figure qui se tient dans ce tableau d'Odilon Redon, qui est un homme, une personne en avant, quoi, qui se met en marche. Alors, si je crois important d'inviter à la méditation aujourd'hui, c'est en raison de cette la promesse. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Il y aura du fruit. Voilà. Il y a une promesse. Celui qui médite la parole, il lui est promis de porter du fruit. Mais la promesse, elle est forcément liée à la patience. Un abricotier dans mon verger, il donnera du fruit pendant l'été et pas en hiver. Voilà. Donc en hiver, il n'y aura pas de fruit, il faudra attendre la bonne saison. Et cette image du fruit de l'arbre qui vient à la juste saison, je crois qu'elle peut nous permettre d'apprendre à demeurer, comme un arbre. En automne, l'arbre, il demeure et il va traverser l'hiver. Il n'y a pas de fruit, mais il n'y a pas de raison de s'en désoler. Toute notre vie, toute saison ne porte pas du fruit, mais toute saison est nécessaire au fruit qui viendra. Et du coup, la rigueur du climat, les branches mortes, ce qui fait la rudesse de nos existences, ont tout à fait leur place pour que du fruit vienne en son temps. Et au fond, je dirais, il y a une sagesse des traditions chrétiennes, de la méditation, à redire, à inviter à cette patience du temps qui conviendra, du temps dans lequel le fruit viendra. Alors évidemment, ce que je dis là n'est qu'une image qui est liée au cycle des saisons et notre vie n'a pas la forme d'un cycle, mais elle peut avoir la forme d'un arbre, voilà, qui pour s'élancer s'enracine et qui vit selon des rythmes. Alors, dans notre vie humaine, on ne peut absolutiser absolument aucun moment de l'existence, même un moment fort n'est pas l'unique moment. Et je vais prendre une autre image d'arbre. Je vais parler des mirabelliers. Voilà, je suis lorrain, donc je parle des mirabelliers. Et évidemment, nous attendons tous en Lorraine les mirabelles à la fin du mois d'août pour en faire des tartes et de l'alcool de mirabelle. Mais si je ne suis retenu que par le fruit, et si je ne vois pas tout ce qui porte au fruit, alors je deviens malheureux. Surtout que la période du fruit, dans une année, elle est très courte et qu'il faut traverser le long hiver lorrain. Alors si je regarde ma vie en attendant d'elle que du fruit, eh bien, et en me forçant à produire du fruit, eh bien, je vais épuiser l'arbre, je vais épuiser le sol. Et nous savons que c'est un mode de production dans lequel notre agriculture est passée, mais dans lequel toute notre vie passe, en fait. En revanche, si je regarde, ou mieux encore, si je prends soin de tout ce processus vital, y compris du tronc nu dans l'hiver, des racines que je ne vois pas et qui peuvent être... les racines d'un arbre ne sont pas forcément belles, elles peuvent être laides ou en tout cas noueuses. Alors, si je prends soin de l'ensemble, alors là, l'arbre pourra porter du fruit. Et je me réjouirai de ce fruit qui pourra être partagé, savouré par d'autres. Alors voilà, la méditation, j'allais dire, elle nous ramène à par les Écritures, mais simplement si on observe sa propre existence, elle nous ramène à cette patience. Vous connaissez ce magnifique vers de Paul Valéry, patience, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr, chaque atome de silence. Alors la méditation, elle est précisément cette invitation à se tenir en silence, j'allais dire au pied de sa propre vie, hein, comme on dit au pied de mon arbre, comme on le chante, mais se tenir au pied de sa vie pour la recevoir. Alors en chrétien, mais je crois qu'il n'y a même pas besoin d'être chrétien, c'est pour la recevoir d'en haut, c'est-à-dire l'en haut, le ciel, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, hein, c'est ce qui est insaisissable. On reçoit sa vie de l'insaisissable, mais on la reçoit en même temps d'en bas. Et je crois qu'on ne peut jamais oublier ces deux ancrages de notre existence, dans l'en haut et dans l'en bas. L'en bas étant la terre du sol, l'humus, c'est-à-dire la création, notre humanité physique. Et on ne peut jamais séparer les deux. Et une méditation qui séparerait l'en haut de l'en bas risquerait de conduire au syndrome de Madame Bovary, qui médite, qui se croit une vie mystique, et qui en meurt. Alors dans ce livre, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Isaac de Ninive, qui est un auteur que je ne connaissais pas, il vaudrait mieux dire Isaac de Mossoul en Irak. C'est un auteur, un moine du 7e siècle qui meurt en Iran, à la lisière du golfe Persique. Donc vous voyez les racines du christianisme, où elles sont hein, aussi. Il a cette magnifique phrase au début: nous devons nous efforcer de demeurer en silence, mais de ce silence naît quelque chose qui nous attire dans un silence plus profond encore. Que Dieu te donne la connaissance de ce qui naît du silence. Ce que je voudrais souligner, c'est cette expression: de ce silence naît quelque chose qui nous attire. Car je crois fondamental dans notre vie de repérer ces attractions. Qu'est-ce qui nous attire? Alors, cela est vrai de la méditation, cela est vrai de toute expérience humaine. Quand nous méditons, quand nous vivons, nous sommes pris par des mouvements d'attrait et de répulsion. Alors, je ne parle pas simplement d'un mouvement d'intérêt. Par exemple, je peux lire les Écritures et trouver intéressant, parce que du sens m'est donné et quelque chose est donné qui me permet de comprendre ma vie. Bien sûr, c'est fondamental. Mais ce niveau d'intelligence, qui à nouveau, je le redis, est fondamental, il se joue également, il y a une invitation peut-être à se rendre attentif à un second niveau. Celui qui médite se rend attentif, il perçoit ceux qui le traversent. Alors ça peut être des distractions, hein, c'est souvent ce que quand on prie, ce à quoi on se rend attentif. Je voulais me concentrer, puis je ne l'étais pas. Mais il n'y a pas que cela. Voilà, je suis porté à repérer, à sentir ce qui me traverse, ce qui me porte, ce qui peut m'alourdir, ce qui peut me peiner ou ce qui va m'enthousiasmer. Et alors les Ignatiens frétillent parce qu'ils reconnaissent là la tradition du discernement. Mais ce qui compte, c'est d'apprendre là à repérer si ce que j'éprouve dans la méditation, mais également dans mon existence, m'aide à m'enraciner dans ce qui me fait être un être vivant. Quand je suis attiré dans un sens ou dans un autre, est-ce que ça me conduit vers ce qui me permet de m'enraciner dans ce qui fait de moi un être vivant? Et cet enracinement, je disais, il est à la fois dans le sol, comme créature, avec tout le vivant et au fond avec tout le créé, qui est enracinement dans le sol, mais aussi, je disais tout à l'heure, élévation, on pourrait prendre un autre mot, qui est un horizon. C'est-à-dire, je découvre que je suis, permettez-moi l'image, enraciné dans l'horizon, et dans un horizon qui est la joie. J'y reviendrai dans un instant. Alors, cette image de l'arbre, pour y revenir encore une fois, je dirais c'est extrêmement important, étant donné aussi tout un discours chrétien, parfois un peu lassant, d'une injonction perpétuelle à la joie. Non, nous ne sommes pas toujours dans la joie, mais nous sommes orientés vers la joie. De même que cet arbre, depuis ses racines jusqu'à ses branches, eh bien, nos racines et nos branches sont tournées vers la joie. Je tenais dans ce livre à citer ce texte que cite déjà Michel de Certeau, du moine qui passe la nuit dehors, les bras levés vers le ciel et qui attend, comme il attend Dieu, les premiers rayons du soleil qui viennent toucher ses paumes levées et qui s'embrasent. Alors, ce travail de la méditation, la méditation plutôt, est un long travail, comme le passage des saisons dans notre vie. La tradition chrétienne, elle rappelle, elle entraîne, elle exerce à bien se placer, à bien se disposer. Nathalie soulignait cette importance que je donne à trouver la juste place, mais la juste place, au fond, elle est donnée, si je prends à nouveau une autre image, de la même manière qu'on cherche à bien orienter la voile sur un bateau. trouver la juste place, c'est d'abord physiquement mettre sa vie, orienter sa vie de telle façon qu'effectivement je recueille tout ce qui m'est donné pour pouvoir aller toujours davantage dans cet enracinement de l'existence. Alors, évidemment, ce mouvement reste imprévisible. Et Nicodème, dans l'évangile de Jean, nous le rappelle. Le vent, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. La méditation, évidemment, ne donne aucune prescience, mais elle donne un enracinement. Le deuxième verbe que je voudrais évoquer avec vous, c'est ce verbe de consoler. La méditation console. Alors là aussi, les philosophes, peut-être qu'on en reparlera avec Nathalie tout à l'heure, la consolation philosophique, c'est une longue tradition. La consolation, on peut le traduire simplement par la joie, mais j'ai envie, là aussi, comme le disait Brigitte, c'est vrai que j'essaie un peu d'écarter les compréhensions qui peuvent nous embarrasser. C'est pas qu'il y ait des certitudes absolues dans le domaine de la vie spirituelle, mais il y a des compréhensions qui peuvent nous embarrasser. Et la consolation qui serait un câlin spirituel, passez-moi l'expression, oui, alors ça peut arriver, évidemment, il peut y avoir de très fortes expressions de la sensibilité dans la prière, et il n'y a pas à les nier. Et au contraire, il y a à s'en réjouir. Mais je crois que ça va un petit peu plus loin que cela, ou que la consolation est peut-être plus subtile ou moins sensible. Mais à nouveau, il ne s'agit pas de s'interdire la joie dans la méditation, dans la prière. Je manquerais à tous mes devoirs si ici je ne citais pas Jean-Joseph Surin, ce jésuite du XVIIe siècle, qui dans une lettre à une religieuse qui avait visiblement une supérieure qui lui empêchait de se réjouir dans la prière, Surin lui écrivait « Ma sœur, vous direz à Madame votre mère, quand Dieu vous envoie des confitures, il faut les manger. » Voilà, donc se réjouir fait vraiment partie de la méditation, mais il s'agit de ne pas se tromper, car si la méditation devient la recette du bonheur, factice, hein, ou si la méditation devient ce qu'on fait parce qu'on veut être dans la joie, de toute façon, ça ne marche pas. En fait, je préférerais dire, avec la tradition spirituelle, que la consolation, elle est ce qui nous porte au-devant de nous-mêmes, voire ce qui nous porte en dehors de nous-mêmes, extase. Mais elle peut aussi nous arracher à nous-mêmes, et c'est douloureux, nous déplacer. En ce sens-là, la consolation, elle est puissance, elle est vraiment puissance d'arrachement. Alors du coup, elle peut être puissance de joie. Je donnerai un exemple. Nous connaissons tous, nous l'avons tous lu, médité, le Samaritain, le bon. Il s'arrête, il prend soin de l'homme qui a été battu, laissé pour mort au bord de la route. Eh bien, le Samaritain, je crois que c'est la figure de l'homme consolé. Parce que c'est un homme qui prend des décisions en aimant autrui. Et en aimant ici un homme défiguré, roué de coups, pas attirant. C'est sans doute pas très joyeux quand le Samaritain s'arrête pour prendre cet homme, le panser, et le conduire à une auberge, et en plus penser à ne pas oublier à fournir de l'argent pour qu'on prenne soin de cet homme. Être consolé, pour le dire autrement, ce n'est pas chérir sa zénitude, passez-moi l'expression, un quant à soi, un bien tranquille. C'est vivre de cet élan qui nous porte. Alors, à nous aimer nous-mêmes, ce qui suppose d'aimer en nous ce qui n'est pas aimable, et là, c'est déjà moins drôle, ça veut dire donc à ne pas aimer une image de soi, mais à s'aimer soi-même. Mais c'est un élan aussi, cette consolation, qui nous porte à espérer pour autrui. Et nous le savons, espérer pour autrui, c'est prendre un risque. Des parents qui espèrent pour leurs enfants, au fond, qu'en savent-ils de ce que l'avenir de leurs enfants leur réserve ? Ils prennent un risque. Et là, on touche à la nature de la foi. De la foi, de l'espérance, de la charité, c'est-à-dire regarder ce qui croit, ce qui grandit, ce qui est solide en autrui, dans ma vie, et faire confiance à cela, comme étant toujours porteur de vie. Rien ne nous en assure, si ce n'est que la vie porte du fruit. Bien, au fond, la méditation, elle nous entraîne à cette attitude. Parce que les Écritures, méditer les Écritures, et c'est vrai que je donne une grande importance, peut-être on pourra y revenir dans la discussion après, il y a d'autres formes de méditation chrétienne que la méditation des Écritures, mais je crois fondamentalement, à quoi je crois fondamentalement, et en disant ça je ne suis pas original, la tradition chrétienne est l'invitation à la méditation, à la rumination des Écritures. Donc, on peut dire que la méditation, en regardant comment le Christ, mais aussi tous les personnages qu'il rencontre, exercent ou non cette capacité à se laisser déplacer, à découvrir dans le monde tel qu'il est, et un monde traversé par la violence, de découvrir des possibles. Et au fond, la méditation, c'est notre regard humain qui découvre des possibles là où il n'était pas visible. Alors c'est là où je crois que la méditation nous permet de rejoindre le cœur de la foi chrétienne, qu'on soit chrétien ou pas, on peut l'entendre, et ensuite il revient à chacun de se décider. Alors en quoi consiste ou comment exprimer ce cœur de la foi chrétienne ? On pourrait passer des années, des heures, mais voilà, moi je reste saisi par ce qui est raconté dans les Écritures et qu'on lit dans de nombreux textes spirituels et que des hommes et des femmes aujourd'hui continuent d'expérimenter et qui tient à si peu, qui change tout et qui en même temps est énorme, incompréhensible et en même temps si ordinaire, et qui n'est pas une idée, mais qui est... qu'on peut dire d'un mot, c'est ce cœur de la foi chrétienne, c'est je crois que la résurrection est possible. C'est arrivé. Ça, c'est un acte de foi. Et nous pouvons en vivre dès aujourd'hui. Et c'est le moment où l'acte de foi devient un acte de reconnaissance. Et vraiment, on peut cheminer à travers toutes les Écritures et découvrir ces innombrables passages qui s'ouvrent là où on n'avait pas idée que la situation pouvait être ouverte, et même allons plus loin, là où la situation était délibérément ou nettement close, fermée, désespérée. C'est vraiment le sens de la Pâque juive et de la résurrection du Christ. Alors effectivement, je cite longuement, Brigitte l'a rappelé, ce texte du frère franciscain Éloi Leclerc, dans ce train vers les camps de déportation où un de leurs frères, ils ont 20 ans, un de leurs frères meurt et ils sont 4 frères et les 3 survivants, alors dans des conditions, vous pouvez imaginer, de ce que c'est qu'un wagon où les cadavres s'entassent. Et Éloi Leclerc dit, mais... pourquoi on s'est mis à chanter le cantique des créatures de François d'Assise ? Loué sois-tu, Seigneur, pour frère soleil, le feu, le vent, l'eau. Ce que dit là, je trouve, de manière absolument saisissante, Éloi Leclerc dans ce souvenir qu'il écrit 50 ans plus tard, dans un très beau livre qui s'appelle « Le soleil se lève sur Assise », c'est, au fond... parce qu'il est dans cette situation absolument insupportable de voir ce jeune frère mourir, de voir ces cadavres qui s'entassent, excusez-moi l'expression, mais d'être dans la pourriture de ce wagon depuis déjà des semaines, de découvrir que ce que loue François d'Assise, le soleil, le feu, le vent et l'eau, ce sont nos éléments, mais qui sont des réalités ambivalentes. Car le feu, le soleil, le vent et l'eau peuvent détruire. Et ce que Éloi Leclerc comprend, c'est bien loin d'être un chant béat d'admiration, ce qu'on fait malheureusement parfois de la spiritualité de François d'Assise, c'est au contraire l'invitation à reconnaître que sans renier la mort qui fait son œuvre dans le monde, eh bien nous pouvons pressentir la profondeur de l'existence mystérieuse qui nous échappe, mais où on est pourtant porté par Dieu. Mais cette prise de conscience que l'on est porté par Dieu, pour Éloi Leclerc, et vraiment moi je le suis là-dedans, elle se double d'un sens de la responsabilité, et cette responsabilité pour Éloi Leclerc, c'est de découvrir que l'ambivalence qui est dans la création tout entière, le feu et l'eau peuvent détruire, eh bien elle est aussi en moi-même, c'est-à-dire moi la victime qui part vers un camp et qui voit mon frère mourir, j'ai moi-même à renoncer à cette violence, à cette volonté de domination de l'autre, d'extermination de l'autre, qui peut se saisir de moi aussi à certains moments. Et ce que lui apprend ce chant de louange, c'est de renoncer à la violence pour accueillir la simplicité de la vie, dans sa force et sa vulnérabilité. Et Éloi Leclerc a une très belle formule à propos de ce cantique. Il dit, c'est une invitation à exercer un regard plein d'égards pour chacun, y compris, comme François, la plus petite herbe. Alors, pour moi, le lien avec la méditation est évident. D'abord, c'est une louange ici. Pourquoi ? Parce que la méditation, elle est effectivement, malgré tout, elle doit d'abord être un temps de recul, une mise à l'écart, un silence qui clarifie le regard, qui précise l'écoute intérieure. On n'entend jamais aussi bien que quand on est en silence. Qui pose notre sensibilité, qui est constamment sollicitée, qui tempère notre imagination en la fortifiant, en lui donnant du corps. La méditation donne du corps à notre imagination. Si ce qui nourrit l'imagination, c'est la réalité et non pas l'imaginaire. Alors du coup, la méditation, qui est un temps propre de notre vie, un temps limité, circonscrit, elle infuse dans notre vie quotidienne. Pour moi, un des plus beaux livres d'histoire de la spiritualité, c'est ce livre qu'a écrit il y a maintenant plus de 50 ans Don Jean Leclerc, qui était moine bénédictin, s'appelle « L'amour des lettres et le désir de Dieu », qui s'intéresse à la naissance de la littérature monastique médiévale, rappelle le lien entre la prière et l'action dans la tradition monastique. La méditation, c'est le moment où le cœur se prépare à l'action. Le cœur étant ce par quoi nous prenons des décisions, mais le cœur, il est aussi ce par quoi nous sommes reliés à tout ce qui nous entoure, ce qui nous affecte. Donc le cœur, il est à la fois, et on pourrait dire là, c'est le cœur conscience, ce par quoi nous prenons des décisions, mais il est le cœur affecté. Et le cœur, il est tout autant dans la tradition biblique et monastique l'organe de la prise de décision, si vous me permettez l'expression, que l'organe de notre enracinement dans le monde. Si on prenait une analogie, il faudrait dire que le cœur est à la vie spirituelle ce que les pieds sont à la vie terrestre. C'est le cœur nous enracine en réalité. Alors la vie quotidienne, elle nous plonge, nous le savons, dans l'action, la prise de décision, les informations, les impressions, les indécisions. Voilà, j'ai pris que des mots en « on » parce que ça bourdonne, notre vie quotidienne, elle bourdonne, elle vrombit d'action, de décision, d'information. Et on risque toujours de passer à côté de notre vie, des rencontres essentielles, surtout que les rencontres essentielles, elles sont parfois extrêmement discrètes. Et ça, c'est vraiment la forme que les récits bibliques donnent au passage de Dieu dans les Écritures. Comme disait Brigitte en finissant, le Seigneur est là et je ne le savais pas. Donc, effectivement, on a plutôt intérêt à s'aiguiser l'oreille, le regard, le cœur pour le reconnaître. Alors, un dernier mot et je termine rapidement. Je disais un troisième verbe, la méditation relie, du verbe relier, au sens où la méditation, elle s'inscrit dans la conversation qui est si fondamentale à la vie humaine et à la vie chrétienne, c'est-à-dire que nous vivons des paroles que nous échangeons. Bien entendu, nous pouvons tuer quelqu'un par notre parole, c'est aussi un sujet de méditation des Écritures, mais nous vivons des paroles que nous échangeons et je préfère parler ici de conversation spirituelle plutôt que de tradition spirituelle, même si les traditions spirituelles, elles sont précisément le témoin de la longue conversation que les croyants entretiennent les uns pour les autres et qu'ils se transmettent les uns aux autres. Voilà, j'ai reçu un conseil de telle personne et je le transmets à d'autres et cela finit pour certains par faire une réputation, une rumeur, une collection d'écrits. La plupart des écrits spirituels que nous avons des temps passés, ce ne sont pas des gens qui se sont dit un jour « Tiens, je vais écrire un livre spirituel », mais ce sont des livres qui ont émergé, François de Sales, par exemple, au fond, est peut-être un des plus beaux exemples. C'est parce que ces lettres, les lettres qu'il adressait personnellement à un tel ou à une telle, et puis qu'une telle trouvait ses conseils si précieux qu'elle les faisait lire à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et puis, il y a véritablement une demande faite à François de Sales de recueillir ces lettres. Et François de Sales en a fait ce magnifique livre qui est l'introduction à la vie dévote. Mais ce n'est pas un livre, c'est une conversation. C'est une conversation. Et vous voyez comment la tradition spirituelle, elle est une conversation et non pas une conservation, hein, s'il fallait jouer sur les mots. Alors, cette conversation spirituelle dans laquelle nos vies s'enracinent, je dirais, à quoi ça tient? Eh bien, aux besoins que nous avons tous de recevoir les Écritures. Parce qu'au fond, les Écritures, elles nous sont éloignées. Elles appartiennent à un temps qui n'est plus le nôtre, au moins 2000 ans, et beaucoup plus, quand on considère le Premier Testament, dans des situations qui peuvent nous échapper. Et on pourrait dire que les traditions spirituelles, c'est une forme de première exégèse, mais d'exégèse de la parole de Dieu pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour source de vie. Et voilà que des hommes et des femmes, beaucoup de femmes dans la tradition spirituelle également, font entendre comment l'Évangile est une parole contemporaine. Alors, c'est ce qui fait que, d'une certaine manière, les traditions spirituelles vieillissent si vite, puisqu'il n'y a rien qui passe plus vite que le contemporain. Mais le travail du maître spirituel, pourrait-on dire, ça va être d'avoir repéré ce qu'il y a d'essentiel dans cette parole, dans cette parole de Dieu, et qui est un appel à vivre. Et c'est d'où ce magnifique texte d'Isaïe qui m'est venu pour trouver un titre à ce livre. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. » Il y a donc un appel, et ce n'est pas moi qui appelle. Voilà, pour moi, c'est peut-être ça le corps de la méditation chrétienne, c'est que je fais l'expérience d'entendre une voix qui n'est pas la mienne. Une voix qui n'est pas la mienne et qui pourtant vient réveiller, raffirmer, affermir ce désir de vivre qui n'est que le mien. Le désir de vivre, c'est toujours un singulier, c'est mon désir. Eh bien, la méditation, c'est d'entendre cet appel qui n'est pas moi, ce n'est pas moi qui m'appelle, mais c'est moi qui réponds. Voilà. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir de la méditation. Voilà, on espère. Vous savez, c'est très drôle parce que mon précédent livre sur l'histoire de la direction spirituelle et des livres de méditation, c'était quand même en gros un livre pour dire que les livres de méditation, ça tue la méditation. Il a fallu l'audace et la générosité d'Anne-Sophie Jouanneau aux éditions Bayard pour me proposer un livre qui me montre que j'avais eu tort, ou alors que j'avais raison, mais là tant pis pour moi. Mais voilà, le propre de ce livre n'est que d'inviter à la méditation, et la méditation c'est à chaque fois l'aventure de mon propre désir et de ma propre écoute. Je vous remercie.
Un très très grand merci Patrick pour ce que tu viens de nous partager. Voilà. Avec toutes ces images, je pense qu'ils résonneront encore longtemps pour nous, l'image de l'arbre, l'image de l'enracinement, voilà, des hivers, des mirabelles. Voilà. Merci beaucoup, je pense qu'il y a une grande force à travers tout cela, il me semble, qui nous est partagée. Alors, je propose maintenant que on prenne aussi du temps pour peut-être recueillir les réactions des auditeurs. Et c'est Cyril qui va nous aider à cela. Je pense qu'il y a une douzaine de réactions qui ont été écrites. Et n'hésitez pas aussi à en poster d'autres, même s'il ne nous reste pas énormément de temps. Mais voilà.
Oui, alors en fait, moi, j'ai noté qu'une seule question pour l'instant, qui était finalement de se demander, pour les personnes qui aujourd'hui se mettraient à la méditation, qui se mettent à relire leur vie et qui le font peut-être d'abord dans des formes de méditation laïque, où on a parlé de méditation dans les traditions orientales, etc. Quel est le saut qui va leur permettre de passer, alors je ne sais pas si c'est une méditation chrétienne, mais en tout cas une méditation qui ouvre, la question parlait d'amour originaire ou à Dieu, comment est-ce qu'on peut éventuellement aider ces personnes à passer d'une forme de méditation peut-être un peu close à cette ouverture dont Patrick parlait.
C'est la question que je craignais le plus parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'ouvre ? On s'ouvre. Et il y a mille et une manières de s'ouvrir absolument imprévisibles. Et le piège de la question, ce serait de savoir par où ça passe pour que ça s'ouvre à la reconnaissance du Dieu chrétien. Alors tout d'abord, il n'y a pas besoin de reconnaître le Dieu des chrétiens pour vivre et pour que le désir s'affermisse. Et c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que moi, je crois plutôt Dieu passe là où le désir de vivre vit et il est donné ou non de le reconnaître. Je vais donner un exemple à partir d'un accompagnement de retraite il y a de ça très longtemps. Moi, je commençais vraiment tout juste à accompagner des retraites. Et il y avait un très jeune étudiant catholique. Donc, le problème, c'est vraiment pas savoir si on est chrétien ou pas chrétien, qui était venu à cette retraite, mais qui était arrivé sous la pression des examens. Je pense qu'il devait être plus ou moins en classe prépa, où il préparait l'agrégation, j'en dirais pas plus, mais il préparait une agrégation, donc au niveau de pression. Et il vient faire cette retraite, sans doute pas au meilleur moment, puisque c'était juste avant les écrits. Et il était tellement tendu, je me suis dit, si je lui donne une méditation des Écritures, vu le niveau de tension, et c'était... C'était pas simplement du stress, quoi. Il y avait une angoisse qui était à fleur de peau. Si je redonne un tour de vis dans la concentration que demande la méditation et l'attention à un texte, et en donnant ça à quelqu'un qui est en plein dans des études, je vais lui faire exploser la cafetière. Et donc, sachant vraiment pas ce que je pouvais bien lui proposer, je lui ai dit, écoute, ce qui serait, et je lui ai vendu, c'est là où je suis, le petit côté jésuite, je lui ai vendu comme l'exercice par lequel on commençait une retraite, en lui disant, ça serait bien d'aller te promener et de regarder, on était à la campagne, et de regarder les champs. Ce jeune homme est revenu le lendemain, physiquement transformé, ayant quitté toute tension, et il m'a dit oh, je crois que j'ai rencontré la gloire de Dieu en regardant les champs hier. Et j'ai été saisi d'un mouvement de louange qui m'a fait relativiser toutes les tensions que l'année d'études m'a fait porter. Alors, pourquoi je raconte cette histoire-là? C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment par où Dieu passe. Alors, ça n'empêche pas une voie commune, mais cette voie commune, un conseil commun que je vais donner, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de méthode pour entrer dans la vie avec Dieu. Voilà. Alors, bah, le plus simple, pour quelqu'un qui médite et qui aurait le désir de rencontrer Dieu, je crois que le plus simple dans la vie chrétienne, c'est de lui suggérer de lire un évangile. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais c'est pour ça que je reviens à l'affaire de la méditation comme conversation. Et je m'arrête là dans ma réponse. Chacun peut, et nous sommes dans des sociétés hyper individualisées, et c'est violent en fait en réalité pour chacun d'entre nous la plupart du temps, parce que ça confronte aussi à l'isolement. Mais du coup, on a l'idée que chacun de nous va trouver la porte tout seul. Et comme en plus tout est disponible sur Internet, le meilleur et le pire, on le sait bien. Mais le plus simple, si on veut commencer, si on veut faire un pas de plus dans la méditation, c'est d'en parler à quelqu'un qui médite. Ah, vraiment, c'est pas en achetant mon livre, désolé pour les éditions Bayard, c'est pas en lisant, c'est en parlant avec un autre. Et on connaît autour de soi des chrétiens. Alors, on ne repère pas tous les gens qui méditent. Il y a des gens qui méditent qui passent complètement inaperçus. Mais il y en a d'autres dont on sait, on les a entendus dire. Alors, on leur demande conseil. Puis après, il y a les centres spirituels, les lieux. Mais avant même tout ça, c'est trop compliqué tout ça. J'allais dire, il y a bien encore quelques chrétiens autour de nous qui méditent, qu'on peut aller trouver avec qui parler. Ouais. Et je crois que c'est ça le geste essentiel.
Alors, il y a une autre question qui est assez intéressante, qui a été posée dans le chat là, il y a quelques minutes, finalement, qui reprenait ce qui a été dit dans la conversation, et que je crois tu dis dans ton livre, que les Écritures ne donnent pas un sens à la vie. Mais pourtant, la question, c'était, est-ce que finalement, en rejoignant notre désir de vie, l'Écriture ne donne pas tout de même un cap, un axe, une direction dans l'existence? Et comment, du coup, en parler autrement qu'en parlant d'un sens de l'existence?
On peut connaître la bonne réponse, Dieu est amour. Et je dis ça sans ironie, sans ironie. Et être perdu dans sa propre vie. Donc le sens, quand il est énoncé, il ne suffit pas encore de l'avoir reçu, parce que je peux vraiment croire que Dieu est amour, on peut prendre d'autres formules, hein, mais bon, prenons celle-là. Cela ne rejoint pas encore ce qu'est l'expérience spirituelle, l'expérience chrétienne, mais l'expérience spirituelle et je crois l'expérience de l'humanité tout entière, qui est le moment où on identifie ce que j'appelais tout à l'heure l'horizon, mais l'horizon comme attraction. La force qui me permet de vivre, parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas de trouver un sens, c'est de trouver une force. Alors le sens, la force n'est pas sans sens, au sens quasiment physique du terme, donc il y a bien une orientation, mais la compréhension du sens ne sauve pas. Ça, j'en suis absolument... Alors j'attends mes amis philosophes, mais je crois que les philosophes sont d'accord. En tout cas, s'ils ne sont pas d'accord, ben, ça fera un point de désaccord. Mais pour moi, c'est extrêmement important. Et vraiment, il n'y a rien de dépréciatif, mais ça suscite un autre niveau. C'est-à-dire, Alors, le terme habituel qui est employé, traditionnel, quoi, traditionnel depuis 3 siècles, hein, donc faut pas s'énerver là-dessus, c'est le mot d'expérience. Mais fondamentalement, je préfère dire que c'est découvrir la force qui nous porte. Et Jean de la Croix, là-dessus, c'est dans ce magnifique texte des gloses dans les Cantiques, de appuyer mais sans appui. Ça, je crois que... Et ça, je crois que c'est à la portée de chacun. Et ça va pouvoir s'articuler de différentes... s'énoncer comme sens de différentes manières, oui. Et le chrétien, c'est celui qui va reconnaître que cette force qui le porte, c'est la force qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mais c'est une force qui travaille dans l'humanité tout entière. C'est ce que nous, croyants chrétiens, nous disons. Et ce que j'espère très fortement.
Merci beaucoup. Je proposerais volontiers, Nathalie ou Brigitte voulaient... avait envie également de réagir ou de reprendre la parole, ben n'hésitez pas. Et je vois aussi qu'il y a une question. Est-ce que Nathalie, Brigitte, vous voudriez revenir sur tel ou tel point?
Pour revenir, j'étais frappée dans ton livre, Patrick, sur l'insistance que tu fais à propos du désir de vie, de voir que tu le désignes comme soutenu. C'est pour ça que je disais Dieu, celui qui garantit la vérité de notre désir de vie. Comme si nous n'étions pas toujours capables ou si nous n'osions pas assumer ce désir de vie qui est en nous. Et je pense que si nous pouvons nous appuyer justement, avoir cet appui, c'est que Dieu est aussi celui qui est sans aucune connivence. Tu parlais tout à l'heure d'ambivalence. Celui qui, de plus près, est passé par la mort, mais qui est sans aucune connivence avec la mort ou avec le mal, alors que nous sommes plongés dans l'ambivalence. Est-ce que c'est une...
Oui, non, je signe.
Oui, et ça, je pense que c'est quelque chose que nous devrions oser dire et oser affirmer. Avec beaucoup de modestie. D'ailleurs, ça n'est pas notre force, nous la recevons. Donc, pourquoi ne pas la partager?
Tout à fait.
Oui, et ça, je trouve que ça apparaît très clairement dans ton livre. Je l'ai dans mon petit compte-rendu mis sur le compte de la parole de Dieu, mais je trouve que c'est vraiment ce que tu fais apparaître très clairement et qui peut être un très grand... un guide très précieux pour nous maintenant.
Ce livre, le projet est né pendant l'été, donc il s'est réalisé pendant l'été, mais je vais évoquer des circonstances pénibles, dramatiques, mais quand il y a eu les attentats de Paris en 2013, donc un vendredi soir, le lundi midi, je devais prêcher à l'église Saint-Ignace. Que dire, quoi, si, pour ne pas ajouter aux commentaires, puis l'homélie en semaine n'est pas le lieu du commentaire de l'actualité. Et j'ai simplement partagé ce qui m'a saisi assez vite le lendemain de l'annonce de ces attentats. Je me suis dit, nous n'avons, si nous ne voulons pas nous laisser emporter par le délire de vengeance, qui va prendre des formes politiques, religieuses, quoi, tout. Après, ça peut s'infiltrer partout. C'est-à-dire que c'est une telle violence appelle en nous une réponse de type violente. Et je me suis dit, la seule chose que je vois pour ne pas céder ou pour reprendre l'expression de ce livre écrit par un témoin, hein, « Vous n'aurez pas ma haine », par le père d'une des victimes, je me suis dit, ben, pour moi, ce lieu-là, c'est de m'enraciner dans la méditation. De m'enraciner. Non, je dis bien la méditation parce qu'on pourrait entendre la prière comme une prière de supplication et de demande, et elle peut l'être, il n'y a aucun problème. Mais de s'enraciner dans ce qui, en nous révèle nos lieux de connivence entre la vie et la mort. Et effectivement, Dieu n'a aucune connivence avec la mort. Ça, c'est. Alors bon, Brigitte. Nous devons, je crois, l'un et l'autre, cette leçon-là à Paul Beauchamp, mais de toute façon, c'est dans les Écritures. Ah. Mais ô combien Paul Beauchamp le mettait absolument en lumière. De même, ce basculement absolument insaisissable, étonnant, non programmable dans la louange. Quoi. Ce qui fait que si on s'affronte véritablement à la violence du monde, paradoxalement, on entre dans la louange parce qu'on découvre qu'il y a une force plus grande que la violence du monde qui est, alors appelons-le l'amour de Dieu, mais c'est tellement trivial de le dire comme ça, qui est la force, les Écritures parlent de force à cet endroit-là, hein, la force par laquelle Dieu ressuscite son Fils, vous savez, ce Dieu dont la lettre aux Romains de saint Paul dit « le Dieu qui appelle » à l'existence, ce qui n'existe pas. Voilà. Celui dont rien ne peut nous séparer. Et je crois que notre vie humaine, qui est ce qu'elle est, et les circonstances actuelles la rendent quand même plus âpre, et pas simplement en raison des confinements et des masques qu'il faut porter, hein, mais nous appelle, je crois vraiment, à descendre dans ce lieu où se discerne, pour le coup, véritablement, c'est ça le vrai discernement, la lutte à la vie et à la mort se mène dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, et dont Dieu ne dit que, j'allais dire presque en susurrant, tu peux vivre.
Merci beaucoup. On avait annoncé, je pense, la soirée jusqu'à 21h, mais peut-être ce que je vous proposerais, c'est que je crois qu'il y a encore telle ou telle question, peut-être qu'on pourrait y faire droit quand même, et puis voilà, après ça, bon, on pourra peut-être arrêter. Cyril, du coup, je te redonne la parole.
Alors, j'ai noté deux questions un peu différentes. La première qui était de dire finalement, est-ce que un conseil qu'on peut donner pour entrer dans cette méditation, c'est pas tout simplement l'adoration du Saint-Sacrement? Ou est-ce que plus largement, des pratiques de dévotion chrétienne peuvent aider en cela? Et puis la deuxième, qui était de dire finalement, quelle est la place que peut prendre la communion des saints et les témoins aussi personnels dans la foi qu'on peut connaître pour entrer dans cette méditation qui est relation, je crois, comme on l'a souligné.
Ce sont des belles questions. La communion des saints, c'est la conversation. Je ne veux pas tout ramener à la conversation, mais C'est cette manière dont la tradition abrahamique, on pourrait dire, parce que je crois que ça déborde vraiment de beaucoup, alors ça porte d'autres noms, mais il y a une communion des saints, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire que nous bénéficions de ce que l'humanité tout entière, du travail que l'humanité tout entière fait de ce discernement des forces de vie et de mort ou de cette confiance radicale dans l'incroyable qui est de dire la vie est plus forte que la mort. Et je dis bien l'humanité tout entière. Alors je n'ai pas répondu à Nathalie sur le dialogue philosophique et il faudra poursuivre, mais c'est vraiment il y a quelque chose de proprement humain, et les sagesses en témoignent, d'autres traditions religieuses, mais aussi des sagesses philosophiques, témoignent, pas toutes, mais témoignent de cette capacité qu'il y a dans l'homme à savoir ce que c'est que vivre en vérité. C'est-à-dire de ne pas garder la vie pour soi. C'est peut-être ça la définition. Alors, sur les manières d'entrer en prière, je veux dire, qui suis-je pour dire quelle est la manière d'entrer en prière? Toutes les manières de prier sont bonnes ou mauvaises. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alors, il y a un premier élément sur lequel l'ensemble de la tradition chrétienne, qu'elle soit théologique, dogmatique, spirituelle, revient avec insistance, et peut-être la grande Thérèse d'Avila et notre maîtresse pour tous, qui disait « Il n'y a pas de prière chrétienne sans la méditation de la vie de Jésus-Christ ». Je crois que toutes les autres formes de prière sont centrales, sont capitales, sont tout ce que vous voulez. Ça aide, ça n'aide. Je n'en sais rien. Et c'est tellement des histoires de tempérament aussi et d'histoire. Mais pourquoi ne pas lire les Écritures? Et celui qui dit qu'elles ne sont pas compréhensibles, je ne le crois pas. Peut-être qu'il ne les comprend pas, mais elles ne sont pas incompréhensibles. Voilà. Donc c'est là où, à nouveau, il y a la conversation. Alors, ce qui est certain, pour revenir à la question précise qui a été posée sur la place de l'adoration eucharistique, c'est ce qui fait, et ça c'est le très beau dialogue de Jésus et avec la Samaritaine, ce qui est ce à quoi la prière nous conduit, c'est l'adoration. Mais dans l'évangile de Jean, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Et c'est une adoration qui peut avoir lieu en dehors du temple. C'est-à-dire que c'est ça la grandeur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque dans le dialogue entre Jean, entre la Samaritaine et Jésus, c'est de lui dont il s'agit, c'est qu'il ne peut être assigné à aucune place. Alors évidemment, nous nous reconnaissons dans le don de la vie de Jésus-Christ, dans ce don de la vie que nous célébrons par l'Eucharistie, et que du coup nous allons pouvoir adorer dans les espèces eucharistiques qui représentent, qui signifient et qui sont la présence même pour les croyants de ce don de la vie de Jésus pour nous les hommes. Mais il n'y a pas de célébration eucharistique sans proclamation de la parole de Dieu. Donc je crois absolument central que toute pédagogie chrétienne, je dis bien toute pédagogie chrétienne, s'enracine dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas prier autrement qu'avec la parole de Dieu. Prier ne signifie pas ouvrir les évangiles. Je peux... Vous savez, quand on lit les traditions spirituelles et qu'on voit l'infinie variété des manières de prier dans le christianisme. Moi, je vais terminer, si vous me permettez, avec une citation d'un apophtegme des Pères du désert, qui est ma préférée. C'est un jeune frère, un jeune moine, qui va trouver un vieux moine qui lui dit « Apprends-moi à prier ». Et ce vieux moine lui dit « J'ai appris de l'abbé Antoine, donc vous voyez, on renvoie encore à une autre conversation, que dans les Écritures, David priait en chantant le Seigneur, que Moïse le cherchait dans le buisson et qu'Abraham lui était obéissant. Quant à toi, écoute le désir de ton cœur et observe-le. » C'est absolument fabuleux. Parce que d'abord, le conseil spirituel, il n'est pas donné par celui qu'on vient trouver, mais il s'inscrit dans une tradition. Ouais, c'est un jeune moine qui va trouver un vieux moine qui lui rapporte les propos d'un autre moine. Donc voilà, on est pris dans une humanité, dans une histoire. Et puis la réponse est absolument fabuleuse, puisqu'il y a trois modèles plus un. Ben, on peut chanter les psaumes, on peut fidèlement observer la loi, où on peut chercher dans le mystère, dans l'existence, la venue de Dieu. Mais ce qui compte avant tout, et ça c'est vraiment absolument, et vous voyez, c'est les apophthegmes des pères du désert, donc c'est pas la postmodernité individualiste. Le conseil de ce moine, c'est hop, écoute ton cœur, écoute le désir de ton cœur et observe-le. Et en grec, le mot observe-le qui est choisi, là, c'est le verbe qui est utilisé pour observer les commandements, le fameux grand psaume 118. Donc, je crois que là, tout est dit dans cette petite histoire du désert d'Égypte.
Bien, très très grand merci Patrick. Très grand merci pour ce que tu nous as partagé. Et puis, ben, je crois que j'espère que ton livre trouvera un très bon écho, parce que vraiment, enfin, une très très grande richesse, je trouve. Merci beaucoup à Brigitte et puis à Nathalie, et puis aussi à Cyril pour avoir recueilli vos réactions et questions. Voilà. Eh bien, on aura l'occasion de retrouver Patrick l'année prochaine au Centre Sèvres, hein ?
Je crois.
Voilà. Donc, à bientôt aussi.
Un grand merci à tous. Bonne soirée.